Le silence des petits papiers, chapitre 25. Josette se sentait prête à continuer ses confidences. La présence de Jean-Christophe la rassurait. Elle savait pouvoir compter sur sa discrétion, tout en approfondissant le sujet de leur rencontre. Judas gémit à la porte. Elle lui ouvrit. Même à l'ombre du tilleul, il a trop chaud. Je cède à ses suppliques. Léonard aurait agi à l'identique. Vous l'aimiez beaucoup, votre père. Oui, nous nous sommes connus, j'étais adulte. Cette rencontre a changé ma vie. Est-ce trop vous demander que de me raconter cette première fois? Comment avez-vous réagi face à celui qui vous a abandonné, préférant l'exil à la vérité? C'est un concours de circonstances qui m'a mise sur son chemin. J'ai rencontré un homme décharné, presque un zombie qui errait dans le village. J'ai craint, en le voyant tituber, qu'il ne chute au milieu de la route. Je me suis approché en lui demandant s'il désirait un coup de main pour traverser. Il s'est accroché à mon bras et ne l'a plus quitté de la journée. Saviez-vous qui il était? Pas le moins du monde. Ici règne le culte du secret. À la fin de cette journée, je ne savais pas qu'il s'agissait de mon géniteur. Mes parents adoptifs ne m'ayant jamais rien dit, et pour cause. C'est Léonard qui a vendu la mèche. Le fardeau était trop lourd pour ses frêles épaules. Jean-Christophe écoutait. Josette essuyait une larme furtive de temps en temps. Elle avait besoin de parler, de se confier. Il prenait à cœur ce rôle de confident, conscient de la confiance aveugle qu'elle lui accordait. Je croyais qu'il était en Amérique du Sud toutes ces années. Sauf celle-là. Il avait contracté une maladie tropicale. Il souffrait, beaucoup amaigri par le mal pernicieux qui le rongeait de l'intérieur. Était-ce simplement ce que vous me dites? N'avait-il pas aussi mal à l'âme? Vous avez raison, je m'en suis rendu compte un peu plus tard. À l'issue de cette première rencontre, je savais qui il était. Lui ne m'avait rien demandé. Nous nous vîmes 4 ou 5 fois avant qu'il ne me demande des détails sur ma vie. J'avais le sentiment qu'il allait mieux jusqu'au jour où je lui parlais de mes parents. Je le sentis défaillir. Je revins tous les jours au village. Léonard ne venait pas. La révélation de votre identité l'a ramené à la réalité. Oui, il me l'a avoué plus tard, il devait respecter le vœu de silence qu'il avait fait à son frère et à Yvonne Pivier. C'est la maladie qui a permis nos retrouvailles. J'appris par un ami où il résidait. Je m'armais de culot et me présentai à la maison où nous sommes aujourd'hui. Je fus surpris d'y retrouver Mathilde, la bonne de notre curé. Ce dernier s'occupait de Léonard en toute discrétion. Elle m'amena jusqu'à lui. La fièvre émaciait davantage son visage, lui donnant une lumière et une beauté inattendues. Il me prit dans ses bras, demanda à Mathilde de nous laisser seuls. Il pleura de longues minutes, mais ma présence sembla lui donner un regain d'énergie. Nous parlâmes durant 3 heures. Nous ne vîmes pas le temps passer. Il se refit rapidement une santé, puis décida de rejoindre sa mission de l'autre côté de l'océan. Comment avez-vous réagi face à ces révélations? Étrangement, je dois dire, comme si j'attendais quelque chose. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce mal-être vis-à-vis de mes parents adoptifs. Après, je me suis senti mieux. J'ai préféré me taire afin de ne pas leur faire de peine. Je crois que j'ai fait le bon choix. Ils n'auraient pas compris. Voyez-vous, Jean-Christophe, on ne peut rien contre les liens du sang. Je saisis bien le sens de tout ça, mais je ne peux m'empêcher d'avoir des interrogations. Lesquelles? Eh bien, les réactions d'Yvonne Pivier, votre mère, celles du frère et de la belle-sœur de Léonard, les siennes, sans oublier l'épiscopat qui a dû avoir vent de cette affaire. Oui, la seule à ne pas savoir pendant des années, ce fut moi. Par rapport à Yvonne Pivier, mon père s'en voulait de ne pas avoir osé affronter un copain d'enfance. Ils s'aimaient depuis longtemps, mais le séminaire et l'engagement en religion faussèrent les données du problème. Léonard était un homme trop bon. À ne vouloir faire de peine à personne, il a fait du mal et en a souffert toute son existence. Yvonne aimait deux hommes. Elle aussi fit un choix. En ce temps-là, dans les campagnes, les mœurs étaient moins permissives que de nos jours. Les croyances de ma mère et de mon père excluaient toute idée d'avortement. Ça me permet de parler avec vous, alors je leur dis merci. Vous n'êtes pas rancunière. Pourquoi le serais-je? Ils m'ont donné la vie, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. Le reste, ce n'est que l'emballage. Parfois le papier brille avec un gros nœud, d'autres fois il est plié dans du papier journal. Jean-Christophe méditait sur le sens de la dernière phrase prononcée par Josette. Il s'interrogeait. Et si les coupures de journaux venaient d'ici, du père Léonard ou de sa fille? Il chassa vite cette élucubration. Ça ne collait pas, ou bien c'était diabolique. Il défronça son sourcil en demandant à son interlocutrice si la durée de l'entretien ne lui pesait pas trop. Et vos parents adoptifs, comment avez-vous géré vos retrouvailles avec Léonard vis-à-vis d'eux? Ils ne m'ont jamais posé de questions. Peut-être savaient-ils. Ils ont gardé le silence. C'était mieux pour nous tous. Oui, mais des personnes vous ont vu en présence de votre père dans la rue ou chez lui. Il y avait Mathilde. Mathilde voyait beaucoup de choses et de gens. Le curé était sûr de sa loyauté. Je ne pense pas qu'elle ait trahi quelque secret que ce soit. Léonard m'a parlé de la position de l'épiscopat. Il fut convoqué à l'évêché pour s'entendre dire que tout péché méritait le pardon. Le prélat lui demanda de rompre sa relation. Il lui proposa un poste de missionnaire. Il n'y eut aucun autre contact avec sa hiérarchie. L'oubli est une grande vertu dans ce genre de situation. C'est la façon qu'a l'Église de régler les soucis de libido de ses prêtres. Oui, c'est d'ailleurs bien regrettable. La fin du célibat permettrait à des couples cachés de vivre leur amour au grand jour. Il y a loin de la coupe aux lèvres, cher Jean-Christophe. Pour un mécréant comme moi, ce n'est pas le plus important. Ceux qui le vivent de l'intérieur doivent l'appréhender autrement. Je suppose, je ne me suis pas penché sur cet aspect de la vie monacale. Comment s'est déroulée la suite avec Léonard? Nous nous sommes vus quotidiennement jusqu'à son départ pour la mission. Nous nous sommes expliqués sur de nombreux sujets. Nous nous sommes apprivoisés, appréciés et aimés. Ensuite, nous avons eu une longue correspondance à raison d'une lettre par semaine. Qui a eu l'idée de vivre avec l'autre ici? Ça s'est fait sans crier gare. Je crois que c'était écrit. Il approchait de sa 80e année. Sa santé lui jouait des tours. La maladie tropicale s'était installée avec des longues périodes de rémission, succédant à des crises intenses. Il prit la décision de rentrer au pays. Je venais tous les jours, puis un jour il m'a pris par la main et m'a confié à voix basse qu'ici tout m'appartenait. J'avais compris qu'il serait le plus heureux des hommes s'il m'avait à ses côtés pour sa dernière ligne droite. Le bonheur entra définitivement dans mon cœur. Cela s'est fait au détriment de votre vie personnelle. Non, il ne faut pas dire ça. J'ai eu une vie amoureuse. Malheureusement, le destin a encore frappé à ma porte. Je vous raconterai cette aventure une prochaine fois, car elle est étroitement liée au reste. L'après-midi se chauffait au dernier rayon du soleil. Jean-Christophe avançait à petits pas. Par une porte entrouverte, il avait su s'engouffrer. Maintenant, Josette était prête à lui raconter la suite. Il montra de la mesure, préférant une discussion approfondie sur les amours de son hôtesse. Il allait de découverte en découverte. Il pensait que Josette possédait une part de la vérité concernant les secrets du village. Il ne désespérait pas de venir à bout du silence des petits papiers.